Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici RDOA pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en écoute sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons, nous avons en communication Monsieur Philippe Bernold. Bonjour.
Bonjour Yves.
Philippe Bernold, vous êtes directeur artistique de Saou Chante Mozart, un festival donc dédié à ce compositeur Mozart et qui a débuté hier, 5 juillet, jusqu'au 23 juillet. Et donc, ce sera une vingtaine de rendez-vous globalement avec un public pour l'amour de Mozart. Alors avant tout, peut-être, Philippe Bernold, peut-être vous présenter.
Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis musicien professionnel, je suis flûtiste, je suis chef d'orchestre. Je suis également professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et je passe ma vie entre deux activités principales, donc enseigner et donner des concerts un peu partout dans le monde. Et en effet, depuis plusieurs années, je n'ai pas compté en réalité, peut-être 7, je suis en charge de la programmation de ce festival qui a 34 ans, il n'en a pas 35, il en a 34, festival Saou Chante Mozart, et donc qui a été créé par un personnage tout à fait remarquable qui s'appelait Henri Fuoc et qui était maire de Saou et qui a imaginé une manifestation autour de Mozart. Alors je précise quand même que... Alors d'abord, je précise que depuis sa création, puisque c'est lors du tout premier concert que j'ai découvert ce festival, puisque j'avais été invité en tant qu'interprète par Henri Fuoc, et sa fidélité a fait que finalement, depuis 34 ans, je me produis, et maintenant, non seulement je me produis, mais je programme aussi le festival.
On peut parler aussi de ce festival, donc vous disiez créé par l'ancien maire Henri Fuoc. Pourquoi cet amour pour ce Mozart particulièrement ?
Ça, c'est très difficile de répondre à sa place. Et ça, en effet, je l'ignore un peu, d'autant que ce créateur, Henri Fuoc, venait du jazz. Il avait créé un festival de jazz à Lyon. C'était un journaliste. Et c'était un homme, c'était un intellectuel, et il s'est pris de passion pour Mozart, mais ça c'était avant que je ne le rencontre, et c'est vrai que finalement, vous soulevez une question importante à laquelle je ne peux pas répondre, je ne lui ai jamais posé la question, mais finalement pourquoi fais-tu un festival Mozart et pas un festival Jean-Sébastien Bach ou Brahms ? Restera une énigme.
Je pourrais vous reposer la question, vous ayant repris le flambeau depuis 7 ans, est-ce qu'il y a aussi une passion pour vous à l'égard de Mozart ?
Oui. Alors là, il y a une vraie passion qui est partagée par beaucoup de gens. Hein. Je dois dire que je ne suis pas très original à aimer Mozart et à placer ce compositeur comme celui que je préfère. Alors, il se trouve que quand on est flûtiste, on a une histoire, j'allais dire... à la fois lumineuse et compliquée avec Mozart, parce que Mozart a écrit de très très belles partitions pour la flûte, tout en disant d'ailleurs qu'il n'aimait pas cet instrument, ce qui est un véritable paradoxe. Mais enfin, en tout cas, le répertoire de la flûte compte 3 concertos, compte 4 quatuors, compte de nombreuses œuvres, et la présence de cet instrument dans l'orchestre symphonique mozartien, si je puis dire, est très particulière. Et c'est sûr que c'est un instrument enchanté, hein, comme le nom de son tout dernier opéra, La Flûte Enchantée. On a du mal à imaginer qu'il ne pouvait pas l'aimer.
Nous venons sur Mozart lui-même étant considéré comme un génie à son époque, puisqu'il composait à partir de 4 ans, je crois.
Ouais.
Et il a eu une existence plutôt brève, et donc on a pu peut-être par sa musique aussi connaître un peu ce personnage dans ses compositions de sa jeunesse jusqu'à sa maturité en quelque
Son
sorte.
requiem. Oui, alors, ça c'est vous posez une question qui est très intéressante parce que, comment dire, dans la musique classique a cela de particulier et de différent de la musique romantique qui suivra, donc la musique classique, hein, vous savez qu'il y a des périodes, il y a la musique baroque, incarnée, on va dire, grosso modo par Jean-Sébastien Bach, la musique classique incarnée grosso modo par Mozart. Ensuite, il y a la période romantique incarnée par Schumann, Brahms, etc. Pardon, je fais un peu le prof, mais c'est une seconde nature. Mais dans la période classique, curieusement, ou pas curieusement d'ailleurs, les compositeurs n'avaient pas vocation à traduire leurs sentiments. C'est quelque chose, comment on se met très à distance de la partition. Quand Mozart a eu des chagrins, c'est pas pour autant qu'il ne composait pas des œuvres gaies ou des œuvres lumineuses. Et quand, au contraire, il était très très euphorique, il pouvait parfaitement écrire des œuvres très sombres. C'est très difficile de suivre, si vous voulez, la personnalité et la vie du compositeur au travers de ses œuvres. Mais ça, c'est pas propre à Mozart, c'est propre à toute l'époque. Voilà, c'est du coup j'ai du mal à vous répondre là encore. Je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas. On peut alors sur le plan de la composition, sur le métier de compositeur, sur le comment dirais-je la matière musicale. Oui, ça, il y a une évolution qui est extrêmement nette, qui est facile à détecter, si vous voulez. Mais sur la traduction des sentiments et des événements de la vie de Mozart au travers de ses œuvres, ça on peut pas. C'est très subtil en fait. Hein, alors on a quand même une chance par ailleurs, si vous voulez, c'est que Mozart a écrit énormément de lettres. Il a une correspondance très très fournie avec en particulier son père, mais avec évidemment avec toutes les personnes qu'il côtoyait. Et cette correspondance, elle a survécu. Ça représente vraiment beaucoup beaucoup de lettres. C'est cinq très très gros volumes, et encore, à ce qui paraît, après sa mort, beaucoup de lettres ont disparu. Mais on connaît à peu près la vie de Mozart d'une manière assez assez précise grâce à cela.
Je reviens un peu sur ma question de tout à l'heure par rapport à votre présentation de ses œuvres ultimes. Vous citez son imaginaire qui permettrait d'ailleurs de mieux comprendre sa production. Alors, dans ce
Oui,
terme
alors.
imaginaire, qu'est-ce que vous voulez exprimer?
En fait, c'est plutôt l'imaginaire musical ou le métier musical, si vous voulez. C'est moins ce que je disais, l'imaginaire et le sentiment, mais c'est l'univers musical auquel il est arrivé. C'est-à-dire, c'est vrai que il faut être un peu spécialiste pour arriver à l'appréhender. Mais quoique, c'est ça aussi la magie de Mozart, c'est que justement, son génie, c'est qu'il arrive avec des choses souvent très simples, à exprimer des choses extrêmement profondes. Et ses œuvres ultimes, c'est-à-dire, c'est pas que les œuvres de la fin de sa vie, c'est sa dernière sonate, son dernier concerto, son dernier quatuor, sa dernière symphonie, qu'il n'a pas forcément écrite à la fin de sa vie, hein, mais bon, voilà, il a arrêté un cycle d'œuvres, et on donne ce cycle d'œuvres. Donc, tout ça pour vous dire que c'est plutôt l'imaginaire artistique, l'imaginaire, son métier, l'aboutissement de son métier, en réalité.
Avec son œuvre paroxystique, Requiem, donc le fameux Requiem, là on peut ne pas nier quand
Alors,
même le sentiment et l'émotion quand même dans cette œuvre.
là je suis d'accord. C'est vrai que le Requiem échappe un peu à ce que je vous dis. Après, il y a aussi dans certaines œuvres, quand même, il traduit son engagement dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est très net, évidemment, dans la flûte enchantée, dans certaines œuvres. Moi, je ne suis pas un expert en la matière, loin de là, mais il semblerait qu'il y ait des symboles et tout un tas d'éléments qui échappent aux profanes, mais qui, analysés par des francs-maçons, sont très évidents. Revenons au Requiem. Le Requiem, oui, alors là, en effet, clairement, il l'a écrit sur son lit de mort, et là, on sent vraiment l'approche de la mort. Là, c'est effectivement, c'est peut-être la seule œuvre où on a véritablement la traduction de son sentiment.
Voilà, et donc nous abordons le programme qui a débuté hier avec les Victoires de la musique. Quel retour avez-vous pour cette ouverture ?
Alors, c'était en effet, c'était au château de Vacher, qui est un lieu privé, mais qui se trouve à Monclar-sur-Gervanne, pas très loin de Die, dans le fond. Et alors déjà, pour vous dire que ce château a une acoustique extraordinaire, donc ça, pour nous, les musiciens, c'est très précieux. Vous dire aussi que j'avais réuni trois amis qui ont été, à un moment donné, sur le plateau des Victoires de la musique, comme je l'ai été moi-même, et on a fait une soirée très festive autour, alors cette fois-ci, de la musique espagnole. Vous voyez que là, on est très loin de Mozart. Mais c'était aussi une façon, si vous voulez, d'ouvrir le festival avec des musiques très accessibles, parce que, évidemment, ce sont des musiques de fête. Hein, la musique espagnole a quelque chose de très solaire. Et je pense que ça a eu du succès, beaucoup de succès. À l'applaudimètre, c'était pas trop mal.
Le prochain rendez-vous sera le samedi 8 juillet et ce sera à la cathédrale de Die pour une présentation du Requiem. Et ce sera avec de nombreux artistes que vous allez nous présenter.
Alors ça va être un des grands moments du festival. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de concert à Die, et en particulier dans sa cathédrale, qui est particulièrement belle quand même. C'est un édifice exceptionnel. Et à édifice exceptionnel, œuvre exceptionnelle, donc la dernière œuvre de Mozart, le Requiem, écrite d'ailleurs conjointement par Mozart et son élève qui s'appelait Süssmayer, qui l'a complété et qui en a écrit des larges bouts. Hein. En fait, quand on écoute le Requiem de Mozart, on a un tiers de Mozart et deux tiers de Süssmayer. Enfin, Süssmayer aurait complété le Requiem sur les instructions de Mozart. Et ça, on peut le comprendre parce que quand on écoute, ça arrive rarement, mais quand on écoute des vraies œuvres de Süssmayer qu'il a écrites sans l'aide de qui que ce soit, c'est assez faiblard. Et là, le Requiem, c'est de bout en bout génial. Donc, effectivement, c'est lui qui l'a complété, mais en effet, sur les instructions de Mozart, c'est une évidence. Les interprètes. Alors, il y a une soprano qui est assez célèbre, qui s'appelle Amel Brahim Djelloul, d'origine kabyle. Je dis ça parce que elle va se reproduire dans la forêt de Sous le 20 juillet. Je le dis parce que ça va être un programme, là encore, très éloigné de Mozart. C'est un programme qui s'appelle Les Chemins qui montent et qui est une équipe de musiciens kabyles avec lesquels elle va se produire. Donc, vous voyez qu'on a on est assez ouvert d'esprit quand même à Sous chante Mozart. On n'a pas que des perruques et on n'est pas trop naftaliné. Donc Amel Brahim Djelloul, soprano qui a chanté au Festival d'Aix-en-Provence, enfin un peu partout. Eugénie Jauneau, mezzo-soprano. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, mezzo-soprano, c'est-à-dire c'est une soprano un peu plus grave, qu'on a entendue hier au château de Vacher, qui est absolument, alors là, franchement, extraordinaire. Les deux garçons, puisque vous savez que les solistes d'une messe ou d'un requiem, c'est toujours quatre chanteurs, soprano, alto, ténor, basse. Donc le ténor, c'est Kélik Bocher, ça c'est un garçon que j'avais déjà programmé il y a quelques années, mais dans une catégorie, on va dire, tremplin de jeunes. Maintenant, le jeune est devenu un peu moins jeune et beaucoup plus confirmé et remarquable. Et Frédéric Caton, la basse. Lui aussi, c'est un artiste qui se produit sur les grandes scènes, l'Opéra de Paris, etc. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir quatre grands solistes comme ça. L'Orchestre des Pays de Savoie, ça, c'est un orchestre qu'on aime beaucoup à Sous. C'est un orchestre qui est basé à Annecy et à Chambéry. Enfin, ils sont sur les deux villes. Et le Chœur d'Oratorio de Lyon, qui est un grand chœur symphonique, magnifique. Et donc, toute cette fine équipe jouera d'une part le Requiem, mais il y a deux œuvres au programme aussi. Il y a la musique funèbre maçonnique de Mozart, qui est très très rarement jouée. C'est une pièce d'orchestre, très très, alors extrêmement sombre celle-là. Et puis, une autre pièce que j'ai mise en contrepoint à cette œuvre sombre, c'est l'Exultate Jubilate. C'est un motet de Mozart, et qui est très lumineux, lui, c'est tout le contraire. C'est une musique solaire. Et là, ça va contraster. Donc, ça commence donc avec la musique funèbre, ensuite le motet, et on finit évidemment avec le Requiem. Non, mais ça va être formidable. Il faut que les personnes qui nous écoutent se précipitent pour acheter les dernières places. Je dis ça pas pour les bousculer, mais c'est presque plein.
Et tout cela sous votre direction.
Absolument. Mais je profite de votre antenne aussi pour faire un peu la publicité du concert du lendemain, si vous le permettez, qui lui se passe à l'abbaye de Valcroissant, qui est tout à côté de Die. Alors, je pense que tous les auditeurs de votre radio connaissent la beauté, enfin j'espère en tout cas la beauté de cette abbaye. Ça, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Et c'est donc le lendemain à 11h30, les deux garçons, Kellig et Frédéric Caton, vont s'associer à une pianiste, Celia Oneto Ben Saïd. Ils vont s'associer à elle pour faire un opéra de chambre, donc un opéra court, un opéra en dimension réduite, et qui s'appelle Mozart et Salieri. Ça, j'y tenais beaucoup à ce qu'on donne cette œuvre. Et elle n'est absolument pas ni de Mozart ni de Salieri. Elle est d'un compositeur russe, Rimsky-Korsakov. Et Rimsky-Korsakov, qu'est-ce qu'il a fait? Rimsky-Korsakov, compositeur de la fin du 19e siècle, il s'est emparé d'un texte de Pouchkine, son contemporain. Et qu'est-ce qu'avait écrit Pouchkine? Pouchkine a écrit une petite pièce de théâtre qui s'appelle Mozart et Salieri, et dont le sujet est l'hypothèse que Mozart aurait été empoisonné par Salieri, qui était son grand concurrent à Vienne. Cette idée d'empoisonnement a été reprise longtemps après, au XXe siècle, il y a une trentaine d'années, par Miloš Forman, le metteur en scène, enfin
le cinéaste.
Tout le monde connaît Miloš Forman. Le cinéaste, exactement, qui a fait ce fameux film extraordinaire et qui a un peu révolutionné le monde de la musique classique, qui s'appelle Amadeus, et que vous avez tous certainement vu. Voilà. Alors, pour moi, c'était important de mettre d'une part le Requiem et d'autre part ce court opéra qui parle justement de la mort de Mozart et qui parle de Requiem.
Avant de continuer sur cette présentation, est-ce que vous auriez une écoute à nous proposer pour...
C'est peut-être un peu immodeste de ma part, mais il se trouve que pendant le festival, on va donner le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Je ne serai pas à la flûte, je serai à la direction d'orchestre. Et ça, ce sera le samedi 15 juillet à Montélimar. Concerto pour flûte et harpe que Mozart a écrit quand il avait 21 ans. Il se trouve que je l'ai enregistré. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en écouter un extrait et je vous propose le premier mouvement.
Thank you.
pour ce premier extrait. Nous continuons donc, et il y a ensuite, on va peut-être pas énumérer toutes les dates parce qu'elles sont nombreuses. Ce soir-là, du 9 juillet, donc, il y a aussi une représentation acrée à l'église Saint-Sauveur, du Quatuor au sommet.
Mais alors là, il s'agit d'un acré, il s'agit d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, quatuor à cordes français. Ça va être un. Ça, alors là, ça va être de la, vraiment du, un pur bonheur encore. Et ça va être une soirée autour de Mozart d'une part, de Bach et de Brahms. Donc là, on est un tout petit peu. On fait un pas de côté et on va vers la musique, comme je le disais, la musique romantique.
Il y a, donc, je disais, beaucoup de rencontres. Est-ce que certains. Vous avez, j'imagine que tous ces rendez-vous sont certainement magnifiques à découvrir, mais est-ce qu'il y en a certains pour qui vous avez une légère fierté ?
Ben, vous savez, quand on programme, en fait, programmer un festival, c'est un vrai, enfin, c'est beaucoup de travail, mais c'est un vrai bonheur parce que c'est un peu comme quand vous établissez votre playlist, mais là, non seulement vous établissez les morceaux, mais vous pouvez même choisir vos interprètes. Parce que tous les interprètes, évidemment, que je choisis, ce sont essentiellement des amis. Je les connais tous, hein, forcément. Non, c'est très difficile de vous dire quel concert. Il y en a un que sur lequel j'insiste un peu. C'est celui du château de Grignan, parce que là, le lieu est absolument enchanteur. Et puis parce que à Grignan, le 16 juillet, il y a une grande chanteuse qui s'appelle Isabelle Druet. Elle aussi, elle se produit dans toutes les grands, sur les grandes scènes, hein, l'Opéra de Paris, la Scala, etc. Elle sera avec un pianiste qui s'appelle Tanguy de Villancourt, qui est aussi déjà venu nous rendre visite, mais quand il était beaucoup moins confirmé. Maintenant, il est chef de chant à l'Opéra de Paris et également un altiste, l'alto c'est le grand violon, Pierre Lénaire, qui lui aussi est soliste de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Vous voyez, ce sont des, on va dire, des pointures. Et des pointures dans un lieu extraordinaire, ça devrait pas être mal.
Et cela concerne donc la vie et l'amour d'une femme qui sera jouée donc, ce 16 juillet à 21h au château de Grignan.
Exactement.
Il y a ensuite, bon, on revient sur le 12 juillet, les nouveaux virtuoses. Ça, c'est des jeunes artistes qui sont à se confirmer.
Oui. Alors, il se trouve que comme je suis professeur au Conservatoire de Paris, qui est une école supérieure de musique, j'ai une espèce de poste d'observation assez intéressant et je repère un peu les... ceux qui seront les grandes vedettes de demain. Et en même temps, comme nous allons nous produire là, dans le nord de la Drôme, dans la partie qui s'appelle, c'est une communauté de communes qui s'appelle la Drôme-Ardèche, il faut aussi que j'ai à l'esprit qu'on fasse une musique qui soit très accessible. Alors il se trouve que j'ai rencontré un accordéoniste, Julien Beautemps, qui est un garçon d'une vingtaine d'années et qui est rempli d'une énergie absolument dingue et qui, avec son instrument, pour lequel naturellement Mozart n'a rien écrit, ça donne à faire des transcriptions, des adaptations. Et là, ça va être un véritable feu d'artifice parce que il y aura de la musique sud-américaine, de la musique de Mozart qu'il a transcrite dans un mélange absolument incroyable, et nous aurons aussi la présence de deux instrumentistes à cordes, trois puisqu'il y a un guitariste aussi, mais deux instrumentistes à cordes plus classiques, Manon Galli et Caroline Sitnevski. Ça aussi, ce sont des jeunes que j'ai repérés au conservatoire et qui devraient enchanter toutes les oreilles.
À la suite, toujours ce même soir, à Albon, à l'église, à 21h, sera proposé Mozart et les Amériques, donc avec quatre musiciens qui interpréteront donc cet aspect de Mozart. Avait-il une connaissance de l'Amérique à son époque ?
Non, c'est un, comment dirais-je, c'est un joke, c'est une blague. Enfin, c'est pas une blague, parce que il faut bien lire que c'est Mozart et les Amériques. Alors, c'est une astuce, hein. Je le confesse bien volontiers. C'est rigolo. En fait, il y a une première partie Mozart et il y a une deuxième partie de musique des Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord avec Gershwin, la Rhapsody in Blue, que bien connue des mélomanes, et de la musique de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire essentiellement du Piazzolla, le roi du tango, et d'autres compositeurs d'Amérique du Sud, brésiliens, colombiens, etc. Donc, si vous voulez, effectivement, Mozart et les Amériques, c'est pas Mozart en Amérique, mais Mozart n'a jamais mentionné dans sa correspondance, puisque je vous le répète, on sait beaucoup de choses grâce à cela, n'a jamais mentionné l'Amérique. Bien sûr qu'il devait savoir il devait savoir ce qui se passait là-bas, j'imagine, mais non, il n'y est jamais allé, bien sûr.
14 juillet à Suze-Larousse, au château, donc il y aura Jonathan Fournel qui proposera un récital donc sur des œuvres plutôt romantiques de Mozart, pas que,
mais c'est vrai que c'est une... Alors, ceux qui ne connaissent pas le château de Suze-Larousse, il faut aussi qu'ils viennent voir ce lieu, parce que c'est un château Renaissance, c'est absolument splendide, la cour est Renaissance, le reste est médiéval, il y a des tours, etc. C'est un château qui appartient d'ailleurs au département, qui nous le prête fort généreusement. C'est un château qui a une acoustique excellente, puisque c'est un décor vraiment splendide. Et Jonathan, c'est un jeune pianiste que j'ai découvert, pas en France, j'ai découvert en Bulgarie, ce garçon, lors d'un festival. J'étais enthousiasmé, mais vraiment enthousiasmé. Je me suis dit, mais qui est ce gars? Il est très jeune aussi, il a 25 ans. Et en fait, entre-temps, il a gagné un prix qui est extrêmement prestigieux pour les pianistes, qui est le prix du concours Reine-Elisabeth de Belgique. Il a obtenu ça en 2021. Et c'est ce n'est que justice, parce que moi, je l'ai entendu avant qu'il ait gagné qu'il ait eu cette distinction. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça, c'est un grand. Et puis, je voulais faire un récital de piano. Et puis, je me suis dit, mais à Jonathan, ce garçon que je voulais faire venir depuis longtemps, depuis que je l'ai rencontré. Et là, ça s'est fait. Il était libre, on a trouvé la bonne date, le bon endroit. Et là, les planètes sont alignées pour un très beau récital de piano.
Et samedi 15 juillet à Montélimar, au théâtre, 20h, il y aura la flûte de Jupiter. On peut présenter rapidement aussi cet événement?
Alors oui, ça c'est un événement qui est très particulier. Il se trouve que la semaine prochaine, de lundi à jeudi, donc 2 jours avant le concert, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, qui est quand même un des meilleurs orchestres français et même international, je vais enregistrer des œuvres pour flûte et orchestre, avec le flûtiste de l'orchestre, qui s'appelle Julien Bodiment. Nous allons enregistrer pas mal d'œuvres de Mozart, et nous allons le restituer, si vous voulez, une fois que le disque sera fait. Il sera fini jeudi matin, très précisément, et samedi, nous serons à Montélimar pour restituer ce qu'on aura enregistré, enfin en partie d'ailleurs. Ce sera tout chaud, tout formidable. Ce sera l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Ça, c'est pas courant qu'on ait ce grand orchestre dans la Drôme.
Le jeudi 20 juillet, deux rendez-vous proposés dans la forêt dessous, l'un à 10h avec une balade en forêt et puis donc des interventions musicales, et à 19h toujours dans la forêt, donc les chemins qui montent, donc ce sera un champ vibrant et habité qui s'élèvera depuis les arbres, donc avec une soprano donc que l'on retrouve, dont vous avez parlé tout à l'heure, Amel Braïd Djelloul.
Exactement. Donc ça, c'est un peu aussi une marque de fabrique du festival, c'est-à-dire quand un artiste a plusieurs visages, c'est-à-dire un artiste classique peut aussi s'exprimer dans d'autres styles musicaux. J'en profite pour montrer les deux aspects. Ça va être le cas aussi du dernier concert, j'anticipe donc un peu dans la programmation, le dernier concert à Dieu le Fit, dans un parc municipal, par un ensemble, un nocturne qui s'appelle Sirba Octet. Et en fait, ils font de la musique tzigane, ils font de la musique d'Europe centrale, Glezmer, tzigane, moldave, voilà. Et en fait, ce sont huit musiciens qui, par ailleurs, travaillent à l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Paris, qui est un orchestre complètement classique, hein, qui se produit à la Philharmonie. Et donc, ces musiciens-là, la veille, ils vont nous jouer du Mozart. C'est un peu pareil, c'est-à-dire ce sont des musiciens très classiques, très, très pointus, on va dire, mais qui peuvent aussi quitter leur costume et leur queue de pie pour se mettre à faire de la musique qui n'est plus classique du tout. Et le dernier concert de Dieu le Fit s'appelle Tanz, c'est-à-dire danse, et il a vocation à clôturer de manière extrêmement festive ce festival. Et ça, si vous voulez, la boucle est un peu bouclée, puisque hier, nous avons commencé avec de la musique espagnole, essentiellement aussi dansante, et on finit avec de la musique d'Europe centrale, dansante à nouveau.
Toujours le vendredi 21 juillet à Sceaux, place des Cagnards, il y aura la nuit de Sceaux, donc ça se passera sous les platanes avec un banquet champêtre. Le samedi 22 juillet, là aussi, un événement à laquelle vous avez procédé, et d'ailleurs vous y participez avec vos invités, ça s'appelle Mozart Intime, ça sera à Soyons à la Grande Grange à 11h30. Pourquoi en matinée?
Oui, le matin, parce que un festival, c'est aussi, pour moi, dans mon esprit, c'est plusieurs concerts dans la journée. C'est un parcours qu'on suit avec des artistes qu'on suit. Là, ce sont mes amis, mes invités, etc., qui se produisent effectivement le matin, la veille aussi, dans la nuit de Sceaux, le soir à Sceaux. C'est une façon de faire la fête en musique et de se retrouver. Et puis alors, 11h30 du matin, ça nous permet aussi de proposer, après le concert, une restauration sous forme de food truck, etc. Enfin, tout ça est toujours sous le signe de la cordialité, du partage, de l'empathie, de la musique et de la joie.
Le même jour et en soirée, donc à Sceaux, au Château d'Eure, vous remettez aussi le couvert avec le sublime quintet pour clarinette de Mozart, toujours avec vous-même et vos invités.
Voilà, alors ça, ce sont les invités qui, comme je vous le disais, joue le lendemain soir dans le Sirba Octet.
Le dimanche 23 juillet, ça sera le jour de clôture, hein. On l'a commencé avec Tanz, ça sera à 7h, lever de soleil. Donc une invitation à découvrir le jour sous une mélodie.
Un concert assez particulier. C'est un concert qu'on donne depuis 4 ans, qui a beaucoup de succès, et qui a du succès non pas seulement auprès des grands spécialistes, etc., mais auprès d'un très large public constitué d'enfants, de marcheurs, de promeneurs, de spécialistes, de non-spécialistes. C'est vraiment une réunion à 7 heures du matin, ce qui est quand même très original, et pas forcément très sympa pour le pianiste, mais enfin, tous les pianistes jusqu'à présent ont adoré faire cet exercice. Donc, tout le monde se retrouve à 7 heures du matin devant un champ de lavande et devant la forêt devant le synclinal, et le soleil sort de la forêt au moment où le pianiste démarre avec beaucoup de poésie son récital. Le pianiste s'appelle Emmanuel Strosser, c'est un des meilleurs pianistes français, bien entendu, et il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est extrêmement poétique, poète. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre un jour dans sa vie, de se pointer à 7h du matin, ça veut dire qu'il faut que vous leviez bien plus tôt, et d'écouter de la musique avec le soleil qui vous éblouit. C'est incroyable.
Ensuite, pour cette dernière journée à Compes, il y a à l'église, donc à 11h30, les œuvres ultimes de Mozart et Debussy. Toujours, ça c'est la troisième partie de votre proposition, oui, avec vos invités.
Exactement. Alors ça, c'est aussi un moment assez rare, assez précieux. D'abord,
parce qu'on se trouve dans une chapelle absolument incroyable à Compes, qui a une acoustique magnifique, qui est perdue, perchée comme ça, sur une colline, qui est toute seule, et dans laquelle on va donner les œuvres, la dernière œuvre de Debussy. Et là, on revient à cette idée de musique poétique, musique d'alchimie des sons. C'est pas de la musique tonitruante, mais le lieu ne s'y prête pas. C'est de la musique un peu de recueillement. Et tout ça dans un décor complètement fou. C'est une journée intéressante parce qu'elle commence avec la poésie, elle continue avec une autre forme de poésie et elle va finir avec quelque chose qui n'a strictement plus rien à voir et qui est Tanz, qui est une musique de fête.
Voilà pour cette programmation. Il y a quelques contacts pour réserver. Hein. Il suffit d'écrire à sous-chante-mozart en un seul mot, .com. Il y a aussi les moyens de réserver par téléphone en écrivant à contact@mozart-du6festival.fr ou alors téléphoner aussi au bureau au 04 75 41 00 18. Sans presser les auditeurs, il y a quand même s'inscrire assez rapidement. Hein.
Oui, alors il y a des concerts qui sont vraiment pleins. Celui de Compes, celui de la Petite Chapelle, et à celui aussi avec le concerto pour clarinette, le quintet de clarinette à Sous au Château d'Œuf. Ça, malheureusement, ces concerts sont déjà pleins. Mais tous les autres sont accessibles. Je veux pas faire de la retape.
Tout est indiqué sur le site, hein, de toute manière.
Oui.
Voilà.
Oui. On peut acheter en ligne et du coup, on voit d'ailleurs l'état de la. On a la salle qui s'affiche devant soi et on choisit son siège. C'est assez moderne.
Pour conclure cette émission, on peut écouter le second choix que vous proposez.
Écoutez, ben je crois qu'on va finir avec le Requiem de Mozart, puisque c'est celui qui va être donné. Après-demain à 10 et que pour lequel j'invite tous les auditeurs à nous rejoindre. On va en écouter donc un extrait, c'est la toute dernière partition de Mozart. Et là, je vous propose le Lacrimosa, c'est peut-être la partie la plus connue, le Lacrimosa dont il aurait écrit que les 8 premières mesures et qui a été complété par son élève et ami Franz Xaver Süssmayer.
Philippe Bernold, je vous remercie de votre patience et de votre présence parmi nous pour présenter donc ce festival Sous Chante Mozart qui a débuté depuis hier jusqu'au 23 juillet. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup Yves. Merci pour vos questions passionnantes. Et puis j'espère vous retrouver à l'occasion d'un des concerts.
Au revoir et bonne soirée.
À bientôt. Bonne soirée.